donc un pan très important des relations des hommes et des animaux est laissé de côté. Et c'est à celui-là qu'en tant que zoologue devenu ethnologue, que j'ai choisi de m'intéresser. Et donc, ne pas seulement se limiter, comme l'entendaient les archéologues et les zoologues, à la première domestication, mais que cette action se produisait une fois, c'était la première domestication, puis se prolongeait jusqu'à nos jours, faute de quoi des animaux pouvaient se dédomestiquer et éventuellement retourner à l'état sauvage. C'est ce qu'on appelle les marronnages, qui ont eu dans l'histoire de certains continents, comme en Amérique ou en Australie, des proportions qui ont pris des proportions très importantes. Le deuxième aspect, c'est que cette action que l'homme exerce sur l'animal n'était jamais constante, ni dans le temps, ni dans l'espace. Je veux dire par là que, en réponse à ce qu'on dit souvent, quoi de plus naturel pour l'homme que de vivre, d'avoir, de posséder et de vivre avec des animaux, le panorama des formes de domestication à la fois dans le temps et dans l'espace me montrait au contraire, à travers des variantes très importantes, que ne justifiait pas forcément ni des notions de comportement des animaux, ni des notions d'environnement différents, que cette notion de domestication était donc un phénomène éminemment culturel. Un cas parmi d'autres, le système domesticatoire occidental. Et j'ai donc décidé de me remettre au travail sur ce plan particulier. Et donc, j'ai appliqué mes méthodes d'ethnologue que j'avais exercées d'abord en Iran, que j'ai recommencé depuis à exercer en Iran, mais je les ai appliquées à notre propre société. Et pendant 6 ans, j'ai enquêté sur les relations des Français et des animaux. Alors, quels sont et ce sera la première partie de mon propos, quelles sont les traits caractéristiques des relations, de nos relations, nous Français, avec les animaux. Alors évidemment, c'est visible pour tout le monde. Le premier aspect, celui qui frappe, qui domine, qui est le plus visible en tout cas, c'est le phénomène animal de compagnie. Alors ce phénomène n'est pas nouveau. On pense même que, sans en avoir la preuve absolue, que certaines premières domestications, notamment celle du chien, vers moins 12 000, a pu passer par l'apprivoisement d'animaux prélevés sur le milieu sauvage. On sait que des sociétés comme les Indiens d'Amazonie pratiquent ça sur de plusieurs espèces. Ce phénomène s'est ensuite développé progressivement, par étapes, avec une première poussée dans l'Antiquité, ensuite le Moyen-Âge, surtout à la Renaissance, où les conquérants européens de l'Amérique sont revenus en important cette manie d'avoir des animaux mascottes ou d'apprivoiser des animaux sauvages pour les intégrer à la vie de la famille. Et il y a eu à la Renaissance, sous cette influence, un deuxième regain de ce phénomène, une deuxième poussée de ce phénomène animal de compagnie. Et puis, au XIXe siècle, qui est, comme chacun sait, le siècle du prémodernisme, du début du modernisme, c'est vraiment au XIXe siècle qu'ont été posées les bases du phénomène tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a commencé avec l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui à peu près à la fin des années 60 ou au début des années 70. Alors, avec l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire environ 40 millions d'animaux sont concernés en France, avec, comme c'est normal, le plus grand nombre chez les oiseaux et les poissons, mais avec les deux groupes les plus significatifs qui sont le chien et le chat, avec environ, dans les deux cas, 8 millions d'animaux, et avec une nouveauté par rapport au livre, puisque ça date de la fin de l'année 99, le chat, pour la première fois, a distancé, les chats sont plus nombreux en France, de quelques centaines de milliers que les chiens, c'est un phénomène nouveau, du moins en France. Parce qu'il y a d'autres pays européens où la Suisse, par exemple, est un pays de chats, où les chats dominent depuis très longtemps le nombre des chiens. Ces 40 millions d'animaux sont répartis dans 52% des foyers français. Donc vous voyez que c'est quand même un phénomène assez massif. Ce phénomène animal de compagnie est maintenant un phénomène qui est associé à un certain genre de vie. Puisque contrairement à ce qu'on a dit, si l'animal est un substitut d'enfant, ça n'est pas un substitut démographique, puisque c'est en général dans les familles qui ont le plus d'enfants qu'on trouve le plus d'animaux domestiques. Et encore une fois, la possession d'animaux domestiques va de soi, va de pair avec les familles nombreuses de plus de 2 ou 3 enfants, la maison individuelle, le jardin, la tondeuse à gazon, etc. C'est donc vraiment un élément d'un genre de vie qui est bien installé dans la société française. Ce qui est nouveau également, en plus de l'ampleur numérique du phénomène, c'est le statut véritablement familial de l'animal de compagnie. L'animal a sa place dans la famille, fait partie, est le compagnon de jeu des enfants, quand c'est possible. Quand c'est un poisson, c'est plus difficile qu'avec un chien, évidemment. Mais les animaux sont soit emmenés en vacances, se déplacent, emmenés en week-end, quand on peut, ou confiés à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du genre de vie et on pense à l'animal. L'animal est intégré véritablement aux préoccupations de la famille. On fait les courses pour lui, on le promène, on le sort, on pense à lui pour les vacances, etc. Une autre composante du phénomène, c'est sa diversité. J'ai parlé jusqu'à présent de poissons, d'oiseaux, de chiens et de chats, mais il faut ajouter les reptiles, la tortue qui est connue depuis longtemps, mais bien sûr, vous avez tous maintenant entendu parler des NAC. C'est un sigle qui est désormais bien établi pour désigner les nouveaux animaux de compagnie, c'est-à-dire gros lézards, serpents, mygales, rongeurs, et plus seulement l'hamster, mais le rat. Le singe en dernier lieu, bien que ça pose de nombreux problèmes, comme vous avez pu le voir dans la presse, et en tout cas le furet fait rage en ce moment. Donc une grande diversité d'animaux. Autre caractéristique, et celle-là tout à fait massive et qui se vérifie dans l'histoire, c'est que pour devenir animal de compagnie au sens où on l'entend actuellement, il faut que les animaux soient dégagés de toute fonction utilitaire. L'histoire du chat est particulièrement éclairante à cet égard. Le chat est implanté dans la société occidentale depuis bien avant le Moyen-Âge, mais il avait jusqu'à une époque, surtout à partir du XIe siècle d'ailleurs, mais il était à l'époque un prédateur du rat. Il faut savoir que le rat noir, ce qu'on appelle le rat des greniers, a envahi l'Europe au XIe siècle, et c'est à partir de ce moment-là que le chat a acquis droit de cité dans les habitations occidentales, mais comme prédateur du rat. C'était donc un chat qui n'était pas du tout autorisé à ronronner et à se prélasser. C'était un prédateur, donc c'était un chat dont l'ardeur à la chasse était sciemment entretenue. Et ça n'est que lorsque, au moment de la deuxième invasion d'un autre rat, c'est-à-dire le rat d'égout, le rat gris, le surmulot, au début du XVIIIe siècle, que le chat, devenu inutile face à cet adversaire plus grand et plus agressif que le rat noir, que le chat a été autorisé à devenir le chat qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire autorisé à se prélasser au foyer de son maître. Le cheval, d'ailleurs, j'y reviendrai, est en train de connaître une évolution, un sort analogue. Alors, voilà un premier groupe d'animaux de compagnie qui est, comme je vous le disais au début, le groupe le plus visible. Ce qui frappe dans nos relations avec nos animaux domestiques, puisqu'encore une fois, on a souvent tendance à ne considérer comme domestique que le chat et le chien, mais le groupe, le substantif domestique s'applique aussi à la vache, au mouton, au porc, etc. Or, on constate que notre société pratique une hiérarchisation extrêmement importante des animaux. Et par contraste avec la situation privilégiée, le statut privilégié, le statut familial des animaux de compagnie, on constate que l'intérêt des Français pour les animaux est un intérêt sélectif, puisque, par contraste avec le sort enviable des animaux de compagnie, on est obligé de voir que ce que j'appelle les animaux de rente, c'est-à-dire à l'inverse des animaux de compagnie, ceux qui sont élevés pour fournir, pour la fourniture de produits ou de services, ceux-là sont de plus en plus invisibles, relégués dans des élevages industriels, abattus en nombre dans des abattoirs qui ont été progressivement écartés des centres-villes sur les périphéries, puis maintenant le plus souvent en dehors des villes, pour des raisons qui ne sont pas seulement des raisons sanitaires, mais pour des raisons de sensibilité, parce que les gens ne supportent plus la vue ou la proximité de ces lieux d'abattage. Cette hiérarchisation entre les animaux de compagnie et les animaux de rente n'est pas entièrement nouvelle. Cette hiérarchie existait déjà dans les campagnes. On sait bien que déjà dans les campagnes, il existait des animaux à qui on donnait des noms, le cheval, quelquefois les bœufs, le porc qui était nourri dans une stalle des déchets des hommes, donc presque de la même façon que les hommes. Ces animaux contrastaient avec les animaux, bétail, volaille, qui n'avaient d'identité que collectif. On sait que le cheval a cessé depuis la motorisation des transports, la fin de la motorisation de la guerre et de l'agriculture. Le cheval a perdu son utilité pour entrer entièrement dans la sphère des loisirs. Et en changeant, en passant de la sphère des animaux de rente dans celle qui n'est pas une sphère d'animaux de compagnie, mais d'animaux de loisirs, qui s'en rapproche un peu, le cheval a changé d'utilisateur. Autrefois, ses utilisateurs étaient des nobles et des hommes. Maintenant, on sait que la majorité des cavaliers sont des jeunes et des femmes. Et du coup, la culture équestre s'est complètement transformé et le cheval a changé complètement de statut culturel, passant d'un auxiliaire respecté à un statut qui tend de plus en plus à se rapprocher de celui de l'animal de compagnie, puisqu'aussi bien se développe dans certaines revues ou dans les populations des centres équestres des tendances qui montrent qu'on est de plus en plus attentif à l'utilisation du cheval, à son sort après qu'on ait fini de l'utiliser, et en tout cas à certaines de ces utilisations qui sont de plus en plus critiquées. Alors, il faut dire un mot aussi, pour finir ce tableau, sur la fascination que les Français ont pour le sauvage. Cette fascination se manifeste par une diabolisation des chasseurs et par une angélisation de certains écologistes qui sont particulièrement attentifs ou qui vouent leur loisir à l'observation des animaux avec une certaine idéologie d'idéalisation de la nature. Et on s'aperçoit en fait que aussi bien les écologistes qui s'occupent d'observer la nature, de la protéger, de la repeupler, dans une certaine façon, quoique avec des méthodes différentes, agissent sur la nature tout autant que les chasseurs. Alors, un mot encore sur... pour dire que certains passionnés d'animaux domestiques y vouent un temps considérable, des moyens considérables. Ce sont des gens qui se consacrent, qui sont groupés dans des clubs de race, qui se vouent à la conservation de la race, de leur race favorite, que ce soit race de chien, race de chat, mais aussi race de chevaux ou d'autres animaux. Que ces gens organisent des concours, qu'ils lisent une presse spécialisée qui a un tirage parfois important. Par exemple, Cheval Magazine tire à près de 100 000 exemplaires. Et ce sont des loisirs dans lesquels les véritables amateurs investissent énormément de temps et d'argent. À ces simples amateurs, il faut également ajouter ce que j'appelle les surpassionnés, c'est-à-dire ceux qui sont qui se consacrent, qui sont de véritables militants, militants de la cause animale, qui se consacrent à la protection des animaux sous différentes formes. Je dis sous différentes formes parce qu'il existe environ 280 associations depuis les plus grandes, les plus connues et les plus institutionnalisées depuis le siècle dernier, comme la SPA, à des petits clubs minuscules comme l'association des Amis du Tourteau qui se passionne pour ce genre de crabe. Donc un peu comme pour les animaux de compagnie, il y en a un peu pour tous les goûts, pour toutes les bourses et pour tous les degrés d'investissement. Alors voilà les principaux traits du paysage animalier français. Maintenant, et ce sera le deuxième volet de mon intervention, quelles pistes peut-on explorer pour expliquer cet engouement quand même assez particulier des Français pour les animaux? Je dis particulier parce qu'il faut rappeler que en termes de pénétration, c'est-à-dire de nombre d'animaux par rapporté à la population de la France occupe le premier rang dans les pays européens, arrive juste derrière les États-Unis. La France a donc une position tout à fait importante dans cette activité et dans cet engouement. Donc cet engouement mérite qu'on essaie d'y réfléchir et de se poser des questions sur les raisons qui peuvent l'expliquer. La première raison est large. Je veux dire par là qu'elle sert aussi bien. C'est la même raison qui sert à expliquer, que j'utilise pour expliquer la passion française, que toute passion domesticatrice. Et comme Noélivia l'a rappelé, j'avais montré dans mon premier livre que la domestication n'avait pas pour raison principale l'utilité, pour la raison très simple que les raisons pour lesquelles on maintient en état de domestication des animaux n'existaient pas avant la domestication, mais qu'au contraire, elles sont apparues comme des résultats de la domestication. Alors que la domestication remonte, notamment celle du chien, à moins 12 000, et puis que toutes les premières domestications se sont échelonnées depuis moins 12 000 jusque vers moins 3 000 avec les dernières qui sont celles du cheval et du chameau. La révolution, la deuxième, qui était la révolution de la domestication, il y a eu une deuxième révolution vers moins 2000 qui était la révolution des produits de la domestication, c'est-à-dire l'époque où vraiment des siècles de domestication ont commencé à produire ces effets et à donner des produits rentables, utilisables en termes d'utilité et d'économie. Donc l'homme avait d'autres raisons de domestiquer les animaux. Ces raisons, je crois, sont au nombre de deux. D'une part, l'homme est curieux. L'homme a besoin de comprendre, d'observer les phénomènes, de chercher à les expliquer. Et donc, il aurait été complètement improbable que l'homme ne soit pas intéressé, passionné même, par ces animaux qui sont à la fois si semblables et si différents de lui. Il y a une deuxième composante de la domestication, c'est le besoin également, je crois, consubstantiel à l'homme, qui est d'agir, de s'approprier la nature. Et là encore, en dehors de toute utilité, puisque en dehors de tout projet autre que celui de se sentir cause de quelque chose. Je crois que quand on voit quand on constate que l'homme a créé près de 400 races de chiens, près de 150 races de chats, et que tous les jours, puisque c'est à l'inverse des amateurs de chiens qui conservent des standards, les amateurs de chats sont des gens qui aiment beaucoup jouer, qui aiment beaucoup innover. C'est-à-dire, dans les clubs de chats, le sport favori, c'est de trouver une nouvelle couleur d'yeux, de poils, des nouveaux coloris, etc. Donc je crois que ça montre bien, et ça évidemment en dehors de toute utilité, autre que la satisfaction humaine d'avoir trouvé quelque chose. Et il y a véritablement, et ça se voit dans toute l'histoire de la domestication et de l'élevage, un espèce d'acharnement zootechnique de l'homme de transformer l'animal, de sélectionner, de faire des croisements, des hybridations, sans avoir de but très précis. Quand on pense à la difficulté qu'il y a encore maintenant à faire s'accoupler une jument et un âne, on imagine que ceux qui, dans l'Antiquité, ont fait ces premiers accouplements devaient ressembler tout à fait fort au Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Il y avait sans doute là une espèce d'acharnement de voir ce que ça pourrait donner avant même de se demander à quoi ça pouvait servir. Et donc, je crois que j'ai coutume de dire que l'homme fait de l'animal comme les enfants font de la pâte à modeler. C'est-à-dire, il y a un espèce de besoin de triturer, de manipuler, de croiser pour obtenir des résultats qui changent, nouveaux. Donc je crois que là, il y a une piste qui est sérieuse pour comprendre certaines des actions de l'homme sur l'animal, encore aujourd'hui. Alors ça, c'est la piste que j'appelle la construction de l'animal. Il y a une autre piste, c'est que en agissant sur l'animal, l'homme agit sur lui. En faisant de l'animal, l'homme se construit lui-même. On observe en effet que il y a dans le maniement et dans la possession des animaux domestiques, notamment des chiens, un certain nombre d'attitudes qui oscillent à peu près entre deux pôles opposés. L'un que j'appelle celui du dresseur, qui est en général une figure masculine, qui exige de son chien des comportements aux ordres, sans utilité particulière de dressage. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui utilisent des animaux pour quoi que ce soit. Et ce comportement de dressage coupé de toute utilité se manifeste surtout, et croyez-moi, j'ai passé des heures dans les espaces publics à observer des possesseurs d'animaux, ce comportement de dressage se manifeste surtout quand la personne se sent observée. Quand la personne se promène avec son chien, le chien vaque sans trop d'intervention. Et dès que la personne sent des yeux qui l'observent, aussitôt, c'est au pied, derrière, assis, prend, etc. Comme s'il s'agissait de manifester une espèce de supériorité sur l'animal. Alors, mesdames, ne croyez pas que vous allez être en reste. Il y a aussi une figure féminine qui se trouve à l'autre opposé de l'axe, qui est ce que j'appelle la figure materneuse, le maternage. Puisque l'attitude féminine caractéristique, c'est les petits bisous sur le museau, et puis la nourriture. C'est d'ailleurs une des choses par lesquelles on voit bien que se manifeste le statut familial de l'animal, puisque beaucoup de femmes mesurent l'affection de leurs enfants à la voracité avec laquelle ils se jettent sur la nourriture qu'elles préparent. Je crois que c'est tout à fait pareil avec les animaux. Et il y a beaucoup de femmes qui satisfont un besoin de maternage en s'occupant de cette façon de des animaux. Alors évidemment, vous avez sur cet axe, autour de entre ces deux pôles opposés, une gradation d'attitude. En tout cas, ce que je retire de tout ça, c'est que finalement, si les gens aiment tant leurs animaux, c'est pas tellement pour ce qu'ils sont, mais c'est surtout pour l'image que l'animal leur renvoie d'eux-mêmes. Autrement dit, le dresseur se sent et reconnaissant à son animal de lui renvoyer de lui l'image d'un être supérieur. Si une femme materneuse aime tant son animal, c'est parce qu'elle lui est reconnaissante d'être entièrement dépendant de ses soins et de sa nourriture. Et il faut dire que si le phénomène animal de compagnie a connu ce développement à la fin des Trente Glorieuses, c'est peut-être pas hasard, c'est peut-être que ces deux attitudes valorisantes qui s'observent chez les animaux, c'est-à-dire de vous renvoyer l'attitude d'un être supérieur et indispensable à la vie d'autrui, que c'est quelque chose qui a singulièrement manqué dans le quotidien de la plupart des maîtres d'animaux. Et alors cette fonction que j'appelle d'animal miroir, finalement, explique aussi pourquoi le phénomène animal de compagnie tend vers une diversité toujours plus grande. Puisque non seulement chez le chien, il y a ces 400 races, et il est clair que quand on a un labrador qui est le chien BCBG par excellence, ça n'est pas la même chose que quand on achète un labrador, on n'achète pas un labrador pour les mêmes raisons qu'un autre achètera un pitbull qui est par excellence le chien à sale gueule pour mettre à sale gueule. De la même manière, si alors il y a aussi des partisans de chiens et des partisans de chats. Les cynophiles sont en général catophobes et les catophiles sont en général cynophobes. Et là aussi, c'est très important. Et alors même chez les catophiles, avoir un persan qui est une grosse boule de poils, la face écrasée, qui est très très dormeur et très, c'est pas du tout la même chose que d'avoir un oriental qui est un chat longiligne avec un museau pointu, des grandes oreilles et qui passe son temps à bondir partout. Donc il en faut là encore pour tous les goûts, pour toutes les bourses. D'autant on le voit bien avec le phénomène NAC maintenant. Bon, avoir un rat dans le lycée BCBG de Paris. La grande folie il y a 10 ans, c'était d'avoir un rat. Et il paraît que les rats s'adorent pisser. En plus, c'est un signe. Ça manifeste son affection en pissant sur l'épaule de son propriétaire. Alors ça faisait fureur. Il n'y avait rien de mieux pour faire râler les parents. Donc c'était formidable. Maintenant, c'est le furet. Le furet, ça pisse moins, mais ça pue terriblement. Donc là, c'est aussi très, très bien, ça. Alors, il y a une troisième piste et qui est un peu plus compliquée. Vous savez que les ethnologues, quand ils sont un peu à court d'idées, ils vont voir ce que font les collègues dans d'autres sociétés. Alors évidemment, moi j'ai lu pas mal de choses sur la domestication dans les sociétés que je n'avais pas étudiées. Et on s'aperçoit que dans un grand nombre de sociétés, notamment des sociétés de chasseurs, les chasseurs vivent dans la hantise que les animaux chassés, en ayant marre d'être chassés, se donne le mot pour échapper aux chasseurs, réduisant ainsi la société à la famine, voire même pour se venger d'eux. Et alors, dans ces sociétés, on fait des tas de rites, des réconciliations avec les animaux, lorsqu'on tue ou qu'on achève un animal, on lui glisse une friandise dans le bec ou dans la gueule, on lui murmure à l'oreille le nom d'une tribu voisine en lui disant « c'est pas moi, c'est les autres ». Et parmi les choses qui sont faites pour essayer de rétablir une espèce de pacte avec les animaux, c'est justement cette pratique courante pour des chasseurs qui ont tué des animaux adultes, de prendre les petits, de les ramener chez eux, de les confier aux femmes qui les élèvent avec leurs enfants, quelquefois de la même manière qu'eux, en leur régurgitant dans le bec ou dans la gueule de la nourriture prémastiquée, voire même, quand il s'agit de jeunes mammifères, en les nourrissant au sein. Et en retour de quoi, ces animaux suivent partout leur mère adoptive et s'apprivoisent très bien et sont tout à fait intégrés dans une parenté classificatoire, de telle sorte que, à l'inverse de leurs parents et des autres animaux de leur espèce, les animaux ainsi apprivoisés sont absolument tabous et il est interdit de les manger, ce qui serait assimilé à de l'anthropophagie. Eh bien, la question que je me suis posée, c'est quand on voit cette différence de traitement entre les animaux de compagnie, d'une part, et les animaux de rente, d'autre part, notamment ceux que nous élevons à seule fin de les tuer pour les manger, je me suis dit que peut-être, si nous aimons tant et de façon si visible et si ostentatoire nos animaux de compagnie, c'est peut-être un peu pour se décharger de la culpabilité que nous éprouvons à manger les autres. Alors, je terminerai, j'irai assez vite parce que j'ai été un peu long, par quelques mots sur des problèmes que posent ces animaux, parce que voulant faire une ethnologie des Français à travers leurs animaux, je n'ai pas pu ignorer que, à côté des amateurs d'animaux, il y avait des adversaires d'animaux, ou tout simplement des gens que ça n'intéressait pas et qui n'en voulaient pas, ni pour eux, et qui ne voulaient pas non plus être ennuyés par ceux des autres. Donc il y a des problèmes, il y a des problèmes qui sont sensibles. À quel seuil de sensibilité doit-on placer la barre de l'antispécisme? Bon, voilà, vous voyez, c'est des débats à n'en plus finir, et je crois tout bonnement que cette notion de droit des animaux est fondée sur une absurdité et qu'elle est irréalisable.